Le midi 50 de Vintimille passa dans un nuage de fumée. Aux fenêtres, les voyageurs devaient se demander ce que cette dame aux cheveux gris et cet enfant triste qui essuyait encore ses larmes pouvaient bien regarder dans le ciel avec tant d'attention. Ma mère parut soudain préoccupée. « Il faut trouver un pseudonyme, dit-elle avec fermeté. Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Si tu étais un virtuose violoniste, ce serait très bien. Mais pour un titan de la littérature française, ça ne va pas. » Le titan de la littérature française approuva cette fois entièrement. Depuis 6 mois, je passais des heures entières chaque jour à essayer des pseudonymes. Je les calligraphiais à l'encre rouge dans un cahier spécial. Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée. Mais une demi-heure plus tard, je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevo. Mon vrai prénom, Romain, me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y avait déjà Romain Rolland, et je n'étais disposée à partager ma gloire avec personne. Tout cela était bien difficile. L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire et qu'il fallait encore écrire des livres. Si tu étais un virtuose violoniste, le nom de Kassef se serait très bien, répéta ma mère en soupirant. Cette affaire de virtuose violoniste avait été pour elle une grande déception, et je me sentais bien coupable. Il y avait là un malentendu, avec le destin que ma mère ne comprenait pas du tout. Attendant tout de moi et cherchant quelques merveilleux raccourcis qui nous eût menés tous les deux à la gloire et à l'adulation des foules, elle n'hésitait jamais devant un cliché, ce qui était moins dû à une banalité de vocabulaire qu'à une sorte de soumission à la société de son temps, à ses valeurs, à ses étalons d'or. Il y a entre les clichés, les formules toutes faites et l'ordre social en vigueur un lien d'acceptation et de conformisme qui dépasse le langage. Elle avait d'abord nourri l'espoir que j'allais être un enfant prodige, un mélange de Yasha Etfetz et Yehudi Menuhin, qui étaient alors à l'apogée de leur gloire. Ma mère avait toujours rêvé d'être une grande artiste. J'avais à peine 7 ans lorsqu'un violon d'occasion fut acquis dans un magasin de Vilno, en Pologne orientale, où nous étions de passage alors, et que je fus solennellement conduit chez un homme fatigué, aux vêtements noirs et aux longs cheveux, que ma mère appelait maestro, dans un murmure respectueux. Je m'y rendis ensuite seul, courageusement, 2 fois par semaine. Avec le violon dans une boîte ocre tapissée à l'intérieur de velours violet. Je n'ai gardé du maestro que le souvenir d'un homme profondément étonné chaque fois que je saisissais mon archet et le cri « aïe 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 » qu'il poussait alors en portant ses 2 mains à ses oreilles est encore présent à mon esprit. Je crois que c'était un être qui souffrait infiniment de l'absence d'harmonie universelle dans ce bas monde. Une absence d'harmonie dans laquelle je dus jouer au cours des 3 semaines que durèrent mes leçons un rôle éminent. Au bout de la 3e semaine, il m'ôta vivement l'archet de violon et le violon de mes mains, me dit qu'il parlerait à ma mère et me renvoya. Ce qu'il dit à ma mère, je ne le sus jamais, mais celle-ci passa plusieurs jours à soupirer et à me regarder avec reproche, me serrant parfois contre elle dans un élan de pitié. Un grand rêve s'était envolé. Chapitre 3. Ma mère faisait alors des chapeaux à façon pour une clientèle qu'elle recrutait au début par correspondance. Chaque prospectus était écrit à la main et annonçait que, pour distraire ses loisirs, l'ancienne directrice d'une grande maison de couture parisienne acceptait de modeler des chapeaux à domicile pour une clientèle restreinte et choisie. Elle tenta de reprendre la même occupation quelques années plus tard, peu après notre arrivée à Nice en 1928, dans le 2 pièces de l'avenue Shakespeare, et comme la ferme était du temps à démarrer, elle ne démarra jamais en fait, ma mère prodiguait les soins de beauté dans l'arrière-boutique d'un coiffeur pour dames. L'après-midi, elle donnait les mêmes soins aux chiens de luxe dans un chenil de l'avenue de la Victoire. Plus tard vint le tour des vitrines dans les hôtels, des bijoux offerts de porte à porte, dans les palaces, à la commission, de participation à un comptoir de légumes au marché de la Bouffa, de vente d'immeubles, d'hôtellerie. Bref, je ne manquais jamais de rien. Le beefsteak était toujours là. À midi, et personne à Nice ne m'a jamais vu mal chaussée ou mal vêtue. Je m'en voulais terriblement d'avoir fait faux bond à ma mère par mon absence totale de génie musical. Et jusqu'à ce jour, je ne puis entendre le nom de Menuhin ou de Effet sans que le remords se mette à bouger dans mon cœur. Quelques 30 ans plus tard, alors que j'étais consul général de France à Los Angeles, le destin voulut que j'eusse à décorer de la grande croix de la Légion d'honneur Yasha Effet, qui résidait dans ma circonscription. Après avoir épinglé la croix sur la poitrine du violoniste et prononcer la formule consacrée « Monsieur Yasha Efetz, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons grand croix de la Légion d'honneur », je m'entendis soudain dire à haute et intelligible voix, en levant les yeux au ciel, « Ça ne s'est pas trouvé, que veux-tu ?